Radio G 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, une semaine sur deux, les semaines paires sur Radio G. Salut Seb.
Salut Seb.
Alors c'est la dernière de la saison.
Et oui, déjà.
On est le 12 juillet 2023, on se retrouvera en septembre.
Bien sûr.
Alors on salue nos acolytes, Romain et Pablo, qui sont déjà en vacances. Et bien sûr, on embrasse les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, en vacances ou pas d'ailleurs, à Angers.
Ben on fait un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent. Moi je pense qu'il y a mes trois petits loupios qui doivent m'écouter aussi en même temps, donc petit coucou à eux, les petits animateurs en herbe, justement.
Oui, cette année ils sont venus voir.
Ils sont venus, et ils ont adoré.
Ah ben, ils reviendront alors.
Ils reviendront.
Alors ce soir, on va parler de tout ce qu'on aime, de bandes dessinées, de festivals, puisqu'on est allé voir des concerts. Et puis Pablo nous a fait des chroniques polars, des chroniques séries télé, enfin voilà, on va s'éclater.
De l'éclectisme, comme d'habitude.
L'éclectisme et beaucoup de bonne musique.
Tout à fait.
D'ailleurs, on va démarrer l'émission avec un morceau des Strokes. Alors ça, c'est une proposition de Pablo. On va écouter Ode to the Mets dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Ça devrait être vraiment sympa ce soir.
Ça devrait le faire.
Oh!
back from his trip. He's at the door. When he gets back, he's on the phone. Innocent eyes, innocent heart. No, it's not wrong, but it's not right.
C'était The Strokes avec Hot to the Metz, un morceau bien trop long, dans Bande Geek Mafia.
Eh oui, tout à fait.
Parce qu'on a plein de choses à vous dire, alors il faut qu'on...
On va essayer de condenser, mais c'est vrai qu'on a plein de choses à vous dire, à vous proposer pour passer un été magnifique quand même, sous le soleil aussi.
Voilà l'été.
Voilà l'été, ça peut être pas mal.
Merci Seb.
De rien.
Alors, tout de suite, on va parler cinéma.
Et oui, cinéma. Et je le fais pas à la bouche.
C'est pas chicha?
Chicha.
Ah, quand même.
Ah, quand même. Allez. Chicha, chicha.
Creature Shock Radio FM. Alors, trois films ce soir. D'abord, Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1. Oh là là.
Ben, à mon avis, vous allez rester sur votre faim, parce que si c'est la partie 1, il va falloir avoir la partie 2.
Il faut attendre.
Il faut attendre.
Alors, il sort aujourd'hui, hein, le 12 juillet 2023, oui. En salle, 2h43. C'est un film d'action, c'est un film d'espionnage, un film d'aventure. Avec...
Tom Cruise
avec Thomas Croisière. Alors, le synopsis. Dans Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1, Ethan Hunt, vous vous souvenez, et son équipe de Mission Impossible se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour.
Ah bon, parce que traquer. C'était pas...
Ah ben non, avant ça a été facile.
C'était facile, d'accord.
Là, il faut traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l'humanité entière.
Ah.
Comme dans James Bond.
Bah, dans Fallout aussi, hein, le dernier, il devait récupérer du plutonium pour éviter que ça pète.
Donc le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu.
Mm-hmm.
Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s'engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, tu vois, c'est un peu comme dans James Bond, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qu'il aime.
Voilà, donc... c'est bizarre, ça me rappelle quand même le dernier Fallout, hein, quand même aussi, où t'avais quand même
Missions impossibles.
Ouais, c'est Missions impossibles, mais là, on dirait qu'il tourne un petit peu en rond.
Votre mission?
Si vous l'acceptez.
Impossible. Bon, scénario est intéressant, évidemment, l'enjeu, on voit bien que c'est vertigineux. À mon avis, la qualité est toujours au rendez-vous, parce que Tom Cruise, il exige cette qualité. On est au niveau de James Bond, hein, bien sûr, peut-être au-dessus, j'en sais rien. Il y a de l'action, il y a des cascades, il y a du suspense au top, ça fonctionne, voilà.
Bah, ce qui est intéressant aussi en même temps, c'est il faut pas oublier, c'est quand même Tom Cruise qui réalise une partie de ses cascades.
Ah ouais. Donc, il court toujours aussi vite.
Oui, ça par contre, là, faudra qu'il m'explique. Hein.
Mais c'est vrai qu'il fait encore ses cascades, c'est incroyable.
C'est encore incroyable.
Il est unique. Il reste le meilleur dans son domaine. Alors attention, hein, histoire en deux parties, on le rappelle, mais on s'en fiche parce que après tout, on ira peut-être voir la partie 2.
La partie 2 et la partie 1.
Non, ça... C'est vraiment un film de divertissement pour les.
Bien sûr, mais il faut le prendre tel quel, c'est tout. Faut pas chercher autre chose.
Je pense qu'on s'ennuie pas une seconde avec ce genre de film. Alors ça, c'était Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1.
Yes.
Alors, on continue dans l'aventure avec Indiana Jones, parce que, et oui, vous le savez certainement, il y a un Indiana Jones qui est sorti, et le cadran, Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée.
Mm-hmm.
Et oui, il est sorti le 28 juin, donc il y a peu de temps, hein, déjà, il y a deux semaines. 2h34, action-aventure de James Mangold avec le grand Harrison Ford, évidemment, dans son rôle culte. Alors, on est en 1969. Après avoir passé plus de 10 ans à enseigner au Hunter College de New York, l'estimé Dr. Jones, professeur d'archéologie, vous vous souvenez, il est sur le point de prendre sa retraite, il est temps, et de couler des jours paisibles.
Alors, paisible Indiana Jones, c'est antinomique.
Exactement, parce que tout bascule. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Elena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant. Mmh. Le fameux cadran d'Archimède. Une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles.
Oh là là, McFly sort de ce corps.
En arnaqueuse accomplie, Elena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Voilà.
Eh ben, voilà.
Alors Indy, eh ben, il n'a pas d'autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fedora, il sort son blouson de cuir et C'est
le
c'est
fouet. Une... Bah, n'oublie, c'est... Pas le fouet.
Ah, n'oublie pas le fouet. Et il part pour une dernière virée. Eh ben oui. Bon ben voilà, ben c'est toujours, ben ça fait plaisir évidemment Harrison Ford de le retrouver. Il y a le méchant Mads Mikkelsen qui joue Antonio Banderas aussi dans le film. Bon voilà. En même temps, faut se faire son opinion soi-même, faut pas se laisser influencer parce que quelquefois il y a quand même beaucoup de critiques négatives. Bon, on a le droit d'aimer, de pas aimer. Bon, Harrison Ford, ça nous fait toujours plaisir de le voir. Il y a le chapeau, il y a le fouet, comme tu disais. Voilà, le thème mythique de John Williams, la musique. Hein. Voilà, c'est des souvenirs d'une trilogie culte qu'on a vue quand on était jeune.
Quatre.
Oui, enfin moi je pense. Oui, mais le quatrième, non, on l'oublie celui-là.
Oui, ça, oui, on l'oublie.
Le crâne de cristal, on l'oublie. Mais non, les trois premiers,
oui, les trois premiers,
trilogie culte. Voilà, quand même. Donc ici, bah. Oui, parce qu'en 2008, on oublie le quatrième.
On oublie
là, c'est le cinquième
là,
épisode. À mon avis, il y a de bonnes choses. Voilà. Mais évidemment, le problème, c'est Harrison Ford qui est trop vieux. Ça, on le sait bien, on le sait bien.
Mais bon.
Voilà. Faites-vous votre opinion. Indiana Jones, c'est le encore, cadran de la destinée.
C'est encore un bon moment de cinéma, quoi, finalement.
Oui, mais pour l'été, on essaie de vous proposer voilà. Des films sympas pour l'été. Hein. Voilà.
C'est des films où on ne se prend pas la tête.
Sans prétention.
Sans prétention. On y va pour se divertir, pour ouais. S'amuser. On pose le cerveau et on réfléchit.
Parce que là,
pas.
Si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez Tintin, si vous.
Bien
c'est
sûr.
Ça, en fait, Indiana Jones, c'est
bien
ça au cinéma. Et puis, un dernier film, Seb, pour l'été, évidemment. On voulait parler de Napoléon. De
alors, c'est pas pour l'été, il sort au mois de novembre.
Pardon, pas pour l'été.
Pour l'été, là,
pour la rentrée, pardon.
Pour la rentrée, bon.
Oui, deux films pour l'été, mais pour la rentrée, on se projette au 22 novembre 2023.
Oui.
Parce que la bande-annonce, c'est pour ça, oui, la bande-annonce est sortie.
Elle est sortie, elle est sortie.
2h38, là encore, hein, avec Joaquin Phoenix qui
Napoléon.
Joue Napoléon, et Taharaïm, l'acteur français. Alors, ça va être une fresque spectaculaire. Napoléon, bah, c'est l'ascension, c'est la chute jusqu'à la chute de l'empereur, hein, Napoléon Bonaparte. Conquête. Du pouvoir par Bonaparte à travers ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Voilà, donc bon, Ridley Scott, on le connaît, il a fait des épopées mémorables. Hein,
Gladiator.
Par exemple. Et donc là, il évoque le génie militaire, mais les stratégies politiques de Napoléon, tout en mettant en scène des séquences de batailles parmi les plus impressionnantes jamais filmées. Voilà, bon, le seul problème, c'est Joaquin Phoenix.
C'est Joaquin Phoenix hein, qui est vieux du début jusqu'à la fin. Hein, donc.
Ouais, voilà. Alors bon, après, moi, à mon avis, il va y avoir plusieurs réactions. Il va y avoir les puristes, les historiens qui vont dire
ah bah,
c'est n'importe quoi.
Et oui, nous, bah, c'est normal.
Bon,
c'est
nous, on va arrêter un peu comme ça.
Oui.
Il y a ceux qui vont dire effectivement, c'est des Américains, c'est des Anglais, ils comprennent rien à Napoléon à l'histoire.
Quoique ils le connaissent mieux que nous, au final.
Voilà. Il y a ceux qui vont dire ouais, mais ça parle pas du rétablissement de l'esclavage.
Oui.
Voilà. Et puis les minorités, tout ça. Bon. Alors mais personne va être content.
Personne va être content. Mais moi, ce que je pense qu'il va être intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a quand même la manière de filmer de Ridley Scott aussi, et surtout sur les scènes de bataille. Je pense que là, on va avoir quand même du truc qui va être relativement grandiose.
Moi, je pense que tu as raison. À mon avis, la plus-value, on va dire, de Ridley Scott, c'est la mise en scène.
C'est la mise en scène.
C'est un très, très grand réalisateur, et effectivement, il va apporter quelque chose.
Bah, si on prend, ne serait-ce que dans Gladiator, là, les 10 premières minutes, oui, ça dure 10 minutes.
Ridley Scott, c'est aussi Blade Runner.
Blade Runner, c'est
Moi,
à mon avis, je pense que là, on va se régaler, effectivement, dans ce sens-là.
Ah ben, on attendra le mois de novembre, on attend d'en reparler.
On voulait
l'évoquer avec vous parce que la bande-annonce est sortie.
Elle vient de sortir, donc voilà.
Alors, Seb,
oui.
Un peu de musique. Voilà l'été, peut-être.
Bah, voilà l'été.
Parce qu'on se disait, c'est l'été. Et c'est bientôt les vacances pour nous.
Oui,
hein, c'est la dernière émission de la saison.
C'est la dernière émission de la saison.
Et tu me disais, mais on pourrait écouter Les Négresses Vertes. Voilà
ouais.
L'été, effectivement. On pourrait dédier cette chanson à plein de gens qu'on connaît, comme Anaïs, par exemple,
oui,
qui adore cette chanson.
Un petit coucou à Anaïs.
Voilà, et à tous ceux qui aiment les vacances.
Les vacances.
Dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G, ça
j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et Dieu
j'avais l'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro si tout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti. Adéquaté qui s'exprime violemment. Y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas zoné. Riette sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont vivre dans l'orgie. Tous ces noyés, le mec, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri.
Verte avec voilà l'été.
Ah, laisse-le jusqu'au bout là sur la.
Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Les dans ma tête qui bourdonnent les abeilles. J'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Le bonheur affreux, je suis d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été, enfin l'été, toujours l'été, encore l'été.
Voilà l'été, effectivement, ça c'est bien, ça c'est bon, ça fait du bien, ça nous met un peu en joie. Et ben ça me permet de faire la transition Kirikiki, hein, parce que Kirikiki, ça fait penser à Cocorico, hein, autant faire un petit peu de Cocorico. On va parler un petit peu de rugby, parce qu'il faut pas oublier quand même, dans peu de temps, on va avoir la Coupe du Monde de rugby qui va commencer au mois de septembre. Mais là, pour nous mettre en appétit, n'oubliez pas quand même, nous avons vendredi la finale des U20, quand même, qui sont...
Vendredi à 19h.
Donc France-Irlande, et je pense qu'on va avoir un très beau match. Alors tout ça pour vous dire, tout simplement, ben moi je vous conseille, justement pour vous mettre à jour, pour bien comprendre toutes les subtilités du jeu rugbyistique, parce que c'est vrai que quand même c'est assez compliqué, ces règles sont assez complexes,
c'est pas facile.
Et bien justement, Becca et Poupard, qui ont l'habitude de faire la série Les Rugbymen, aux éditions Bambou, ont décidé, alors ça fait plusieurs années hein, qu'ils font justement ce livre, mais ils le remettent à jour régulièrement parce que justement les règles du rugby évoluent. Donc vous propose le rugby et ses règles. Donc aux éditions Bambou, moi je vous le conseille hein, directement, en compagnie des personnages de la bande dessinée Les Rugbymen et de Joël Duc, découvrez les règles et le monde du rugby dans un livre agrémenté d'humour, d'anecdotes savoureuses. Donc les néophytes y trouveront tous les éléments pour comprendre le rugby, du rôle de chaque joueur jusqu'au déroulement phase par phase d'une partie. Les connaisseurs bénéficieront de l'éclairage de Joël Duc, alors je suis désolé hein, sur la prononciation du nom, hein, je le fais peut-être pas correctement, sur les subtilités des règles et la manière dont elles doivent être appliquées. Un livre complet, indispensable et accessible à tous, justement, moi je vous le conseille, et je rajouterai que dans très très peu de temps, il me semble dans 15 jours, on va avoir le tome 21 des Rugbymen qui va sortir.
Wow, merci Seb. Voilà. Ah bah écoute, moi ça me donne envie de lire.
Ah bah c'est que du bonheur.
On écoute peut-être une petite chronique de Pablo sur
oui.
Un polar.
Mmh. Ça fait peur.
Yo les bandits, je vous présente une BD polar, la trilogie de la violence, de Sylvain Rimberg, scénariste, et de Luc Braille, dessinateur, adapté des romans de Franck Tillier. Un film rend aveugle, des gauchers se suicident, des humains sont cobayes d'expériences nucléaires. Le couple de flics Charcot et Hennebel enquête. Réunion en intégrale des trois thrillers sordides et piquants adaptés de romans, des romans de Franck Tillier. Ces trois romans sont Le Syndrome E, Gattaca et Atomica. Résumé du premier tome, Le Syndrome E. Tandis que l'inspecteur Franck Charcot enquête sur une affaire de squelette humain retrouvée à côté du creusement d'un pipeline au Havre, l'inspectrice Lucie Hennebel écope d'une affaire plus étrange. Son ex-copain est en effet devenu aveugle après avoir visionné un film. Ce film avait été retrouvé dans le grenier d'un vieil homme et montrait des images particulièrement horribles. On y voit un œil découpé au scalpel, en gros plan, des fillettes qui massacrent des lapins. Le personnage emblématique de Franck Tillier s'appelle Franck Charcot, surnommé Shark, évidemment, car il est agressif, il ne lâche rien, il flaire le sang et sait naviguer en eau trouble. Charcot est sombre, pourtant il aspire à la lumière, et c'est là tout son charme. Mais encore plus charmante est Lucie Hennebel, inspectrice à la police judiciaire de Lille. Logique, carrée, elle est aussi intrépide et tenace. Belle rencontre en perspective entre nos deux personnages. Bien sûr, comme dans tout bon thriller, tout commence par la découverte de la scène de crime. Franck Tillier est un maître en la matière. C'est la scène inaugurale des romans et ici des BD. Il s'agit de mettre le lecteur en condition, de lui promettre des émotions fortes, de lui procurer ce mélange de peur et de plaisir sur lequel fonctionne le genre. Bel été de polar et BD les geeks.
Do ordinary.
avec Beautiful Emily live
dans Bang Geek Mafia sur Radio G.
Alors Seb, tu vas nous parler de deux bandes dessinées mais vraiment magnifiques à emporter en vacances.
Alors, une bande dessinée, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais et je l'ai redécouvert ce matin. Et je me suis dit, mais non, mais ça, il faut que j'en parle.
Pour les vacances.
Pour les vacances.
Aux auditeurs de Bande Dessinée.
Aux auditeurs. Et en plus, on est un petit peu dans la continuité de ce que Pablo nous a présenté. Là, donc, un polar. Et là, justement, aussi, on a une histoire, un polar. Alors, le titre, c'est Gravé dans le sable, d'après Michel Buzy, de Desraches et Fernandez, aux éditions Phileas. Quel est le prix d'une vie ?
Je ne sais pas.
Pour Lucky, joueur ayant la chance du diable, la mort est un jeu comme un autre. Alors en juin 44, à la veille du débarquement en Normandie, il n'hésite pas à miser sa vie pour une hypothétique fortune. Lucky va perdre la vie, persuadé que sa sublime fiancée Alice Quinn empochera la mise. Mais ce n'est que 20 ans après sa mort, après la mort de son amour, qu'Alice va découvrir des brides de vérité. Et encore, comment le prouver ? De la Normandie aux États-Unis, Alice se lance en quête du rétablissement de la mémoire de son homme au risque de réveiller les démons du passé. Autour d'elle, chacun croit détenir la vérité et semble résolu à tuer pour la protéger.
Waouh.
Et ça, c'est juste.
Ça a l'air hyper bien.
C'est super.
Gravé dans le sable.
Gravé dans le sable. Donc, c'est le premier roman écrit par Michel Buzy qui a été publié en 2014, qui s'appelait Omaha Crimes. Franchement, c'est une histoire super avec plein de rebondissements et jusqu'à la fin, on ne connaîtra pas. Et graphiquement, c'est super.
Ouais, c'est chouette. Ouais.
C'est super. C'est vraiment une belle histoire. Vraiment, moi, je vous le conseille. Là, c'est
Desraches et Fernandez.
Ouais, Desraches et Fernandez aux éditions Phileas. Voilà, je sais plus comment j'avais trouvé ça. Ça date un petit peu, mais franchement, je retrouve encore quelques pépites dans ma bibliothèque de temps en temps.
Merci Seb pour cette pépite.
Pour cette petite pépite d'été qui va faire du bien. Alors, deuxième bande dessinée aux éditions Grand Angle. Philippe Charlot et Alain Grand nous proposent une adaptation de La Chambre des Deux Officiers, le roman de Marc Duguin.
Excellent roman.
Excellent. Le long retour à la vie pour ces hommes qui doivent tout réapprendre et surtout affronter le regard des autres. 1914. Au premier jour de la guerre, un éclat d'obus défigure Adrien. Le voilà devenu une gueule cassée, reclus au Val-de-Grâce, dans une chambre réservée aux officiers. Adrien restera 5 ans dans cette pièce sans miroir, 5 ans pour réapprendre à vivre au rythme des opérations, 5 ans, entre parenthèses, à nouer des amitiés d'une vie avec des compagnons d'infortune, 5 ans de reconstruction pour se préparer à l'avenir, 5 ans à penser à Clémence, qu'il a connue avec sa gueule d'ange.
Ouais, parce que le roman est très très bien écrit, ouais. Et là je pense que le petit plus de la BD, ça va être justement le visuel.
Le visuel
et puis les images,
voilà, graphiquement, moi j'aime bien tout ce que fait à peu près la maison d'édition Grand Angle.
Ça me fait penser à Tardil, déjà.
Oui, voilà, c'est un peu
Delblanc-Sec.
Ouais, Delblanc-Sec plutôt.
Un peu.
On retrouve aussi on a vraiment un dessin qui est vraiment agréable et puis ça permet d'avoir une première approche finalement de ce roman si on n'a pas eu le temps de le
lire.
Et puis si on n'a pas eu le temps de voir aussi l'adaptation filmique.
Très bon film.
Très très bon film. Et du coup, ça permet de mettre le pied à l'étrier.
C'est vrai qu'on a un bon roman, une bonne BD, un bon film. Donc, on a le choix.
On a le choix.
Pour l'été.
Pour l'été, c'est pas mal.
Merci Seb.
De rien.
Un petit polar.
Oui.
La fille du train.
Tout à fait.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5 la radio. Qui fait le pont.
Yo les Bangeeks, je vous présente un polar, La fille du train, de Paula Hopkins, aux éditions Pocket Poche, sorti en 2015. Un thriller psychologique qui vous capte et vous embarque sans crier gare. Une fois à bord du train, installez-vous. N'en descendez pas tout de suite, allez jusqu'au terminus pour connaître le fin mot de l'histoire. Résumé. Entre la banlieue où elle habite à Londres, Rachel prend le train 2 fois par jour, à 8h04 le matin et à 17h56 le soir. Et chaque fois, elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur. Elle a même donné un nom à ses occupants, Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait. Heureux, comme Rachel et son mari ont pu l'être par le passé, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Rachel Watson est une femme de 32 ans qui a sombré dans la dépression et l'alcool depuis son divorce avec Tom. Son ex-mari s'est depuis remis en ménage avec sa maîtresse Anna et leur fille dans l'ancienne maison du couple. Jusqu'à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec un autre homme que Jason. La jeune femme aurait-elle une liaison ? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, Rachel décide d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, elle découvre avec stupeur la photo d'un visage désormais familier à la une des journaux. Jess a mystérieusement disparu. Addictif, dit Télérama, un bijou de polar psychologique, dit Le Figaro Magazine. L'histoire est racontée du point de vue des trois personnages féminins, Rachel, Anna et Meghan. En fait, on suit le destin croisé de ces trois femmes. Enfin, au début, on suit surtout Rachel et sa longue, très lente chute dans l'alcool et la dépression. Là, il faut s'accrocher, surtout durant les 100 premières pages, car l'autrice installe l'ambiance, le décor et les personnages. Elle nous installe dans cette routine ennuyeuse de Rachel et des trains de banlieue. Elle nous fait sombrer avec elle dans l'abîme. Nous nous demandons alors si nous ne sommes pas totalement manipulés. Encore une fois, le jouet des apparences. Ou si nous ne sommes pas en train de croire les fantasmagories d'une alcoolique mythomane. Elle prétend avoir vu et ressenti des choses anormales, suspectes. Mais ne les a-t-elle pas inventées ? Surtout que lorsqu'elle boit, elle a des blackouts et oublie beaucoup de choses. Ou faut-il faire confiance à ses intuitions et la suivre dans son cheminement vers la vérité ? Alors, fantasme ou réalité ? Mais attention, ne lâchez rien, car les intuitions audacieuses de Rachel ne sont peut-être pas si farfelues que ça. Pour découvrir la vérité, il lui faudra d'abord se maîtriser et commencer par enquêter sur elle-même. Freud disait que l'inconscient est le fait de mécanismes de défense qui protègent le moi conscient, qui censure l'intolérable. Ce surmoi qui nous culpabilise sans cesse lorsque nous cédons aux pulsions du ça, c'est-à-dire de nos pulsions chaotiques. Parfois, les oublis sont des refoulements qui tentent de mettre la poussière sous le tapis, à défaut de pouvoir la faire disparaître totalement. Mais la vérité est là, en nous, avec son problème, notre problème, et peut-être sa solution. La fille du train, donc, avec son côté journal de Bridget Jones, mais surtout un très bon thriller psychologique à la Hitchcock. Il y a quelque chose de fenêtre sur cour dans ce roman qui va vous plaire. Je vous signale également quelques parutions récentes de Polar pour accompagner votre été. Angle mort, justement de Paula Hawkins, dont on vient de parler. Le silence de Dennis Lehan, évidemment sur la dalle de Fred Vargas, la nouvelle enquête du commissaire Adamsberg. Je vous signale également La faille de Franck Tillier, Rouge Karma de Jean-Christophe Granger. Mais je vous signale aussi Amour, meurtre et pandémie de Qiu Xiaolong, auteur chinois. Je vous signale encore Un œil dans la nuit du romancier de polar français Bernard Minier. Et enfin, Le bonheur est dans le crime, qui est le premier roman, premier polar d'Ali Rebehi, vous savez, le présentateur radio de France Inter. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bel été, les geeks, et de très belles lectures. Profitez bien. Ciao.
una broma, ayúdame a sacarla de mi cabeza.
Sácatela.
Voilà, c'était la femme avec Sácatela.
Spéciale dédicace pour
Romain et Elena.
Et si.
C'est l'album Teatro Lucido. Alors et vraiment, on vous conseille, c'est vraiment une chanson pour les vacances.
Ça, c'est pour l'été, ça fait du bien.
Parce que, hormis le Hellfest, alors on pourrait en reparler encore pendant des heures, hein, voilà, je suis allé au Hellfest, c'était, comme d'habitude, plein de bons concerts,
et
je pourrais pas
sûr.
Tous vous les raconter, bon, sachant que les Melvins, c'était quand même le meilleur concert
oui,
du festival.
Non, mais ça, c'était pas objectif là-dessus.
Voilà, non. mais après l'ambiance, alors après, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale, on verra peut-être à la rentrée, mais on avait déjà fait une émission hein, pour présenter le festival.
Oui.
Là, j'ai pas fait de retour du festival parce que cette année je suis un peu mitigé en fait.
Mais ah, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais je trouve que alors les concerts sont toujours aussi bien. C'est toujours très bien organisé, c'est pas le problème. Mais je sais pas, l'ambiance est pas la même, le public n'est pas le même. Voilà, c'est. Après, moi j'y vais depuis tellement longtemps que j'ai peut-être un peu fait le tour. Je ne sais pas, mais on en reparlera plus tard. Alors moi je voulais vous parler du festival La Nuit de l'Erdre à Nord-sur-Erdre. Puisque ça nous a permis à Florence et moi, d'ailleurs, c'est Florence que j'embrasse,
coucou.
À qui je vais dédier le morceau qui va passer juste après. ça nous a permis donc d'écouter ben, finalement plein de musiques différentes parce que c'est un festival éclectique.
Et l'éclectisme,
c'est notre spécialité, dans Bande Geek Mafia. Alors, par exemple, c'est un festival qui dure 4 jours. Nous, on y est allés le samedi, mais rien que le samedi, on est arrivé, il y avait un groupe de reggae, Groundation. Ensuite, il y avait un rappeur, Josman. Et puis après, par exemple, il y avait La Femme que vous venez d'écouter, un groupe de pop française.
Ah, d'accord.
Vachement sympa. La Femme, un groupe qu'on aime bien, avec des titres cultes, hein, comme Sácatela, comme Mycose, comme Sur la Vague. Bon, bref. Et puis ensuite, il y avait Juliette Armanet, par exemple. Alors moi, je ne connais pas bien, mais elle a beaucoup de succès. Et ben, elle s'est donnée à fond. Donc c'était plutôt sympathique de la voir comme ça, tout donner pour son public. Et puis surtout, après, on allait voir Phoenix. Parce que Florence et moi, on est des fans
de
ce groupe français très célèbre aux États-Unis, Phoenix. Alors un groupe maintenant qui a démarré en fin des années 90, hein, qui a fait des albums extraordinaires. Alors c'est pop rock, hein, on va dire, mais en concert, c'est toujours très très chouette, musicalement, visuellement. Donc là, on a passé un très très bon moment. Donc moi, je vous conseille ce festival, La Nuit de l'Erdre à Nord-sur-Erdre. C'est dans le dernier week-end de juin. Il y avait donc au cours du week-end plein d'artistes différents dans tous les styles de musique. Il y avait l'homme pâle. Enfin, il y avait de la musique électronique. Enfin, il y avait de tout. Le seul bémol de ce festival qui est très très bien organisé aussi, c'est les toilettes. Alors là, pour le coup, il y a qu'un seul lieu pour les toilettes.
Donc une queue de 3 heures.
Voilà, exactement. Voilà, c'est le seul bémol, je dirais. Sinon, je vous conseille ce festival très sympa, La Nuit de l'Erdre. Et donc, on en profite tout de suite pour écouter Phoenix avec le titre 1901 dans Bande Geek Mafia. C'est pour Florence.
Radio GX.
Voilà, c'était Phoenix avec 1901, tiré de l'album Wolfgang Amadeus Phoenix, le meilleur. Et Phoenix qui a sorti un nouvel album cette année, Alpha Zulu. On vous le conseille dans Monde Geek Mafia. Alors tout de suite, une petite chronique de Pablo. On va parler d'une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bron the Bridge, en anglais. Oups.
Echo stutters across the room. Trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to near. Resonating a mask of fear. Hollow talk in me.
Allez les geeks, encore une petite série pour la route, une série pour les vacances. Une excellente série policière qui s'appelle Bron. Bron, The Bridge, en anglais à l'international, 4 saisons de 2011 à 2018, actuellement visible sur Arte. Bron, en danois, ou encore The Bridge à l'international, est une série télévisée suédo-danoise en 38 épisodes, 2 saisons, créée par Hans Rosenfeld et diffusée actuellement sur Arte TV. Je vous lis le synopsis de la première saison. Le corps d'une jeune femme est retrouvé coupé en deux à la frontière suédo-danoise sur le pont de Loresund. Mais le buste est celui d'une femme politique suédoise, tandis que les jambes sont celles d'une prostituée danoise. Des crimes dont les victimes sont des ressortissants suédois et danois ont lieu autour du pont de Loresund, reliant Copenhague, Danemark, et Malmö, Suède. De ce fait, les forces de police des deux pays sont amenées à collaborer. Saga Norén pour la police suédoise et Martin Rød, pour la police danoise forment une équipe binationale chargée de l'enquête. Détaché, en roue libre, insensible à l'opinion de ses contemporains, l'inspectrice de la brigade criminelle de Malmö, Saga Norén, souffre d'un trouble autistique qui s'apparente au syndrome d'Asperger, sans qu'il ne soit jamais mentionné. Si différents soient-ils, la sociale et le bon vivant, ils vont devoir traquer ensemble un criminel en série, à l'inquiétant discours apocalyptique. Brillant, épouvantable, drôle, la série qui a inspiré Tunnel. Je cite ici le site justement La Maison du Polar. Des personnages attachants car complexes. A commencer par Martin et Saga, le génial duo d'enquêteurs des deux premières saisons. Absolument tout les oppose. Elle, Saga Norén, enquêtrice surdouée mais abrupte et obsessionnelle, asociale à bien des écarts. Elle offre un visage aux traits durs et des gestes mécaniques, peu séduisants au premier abord. Pourtant, elle nous plaît bien, avec ses réactions imprévisibles qui offrent des poses comiques dans un récit autrement parfaitement glacé. Lui, Martin, à l'inverse, joue un flic débonnaire, vaguement désabusé, mais véritablement sensible. Une relation 100% sans séduction qui sert de colonne vertébrale aux deux premières saisons. Le pont, autre personnage essentiel, il relie la danoise Copenhague à la suédoise Malmö. Cette impressionnante construction architecturale sert de marqueur géographique au service de l'intrigue, mais surtout de frontière symbolique, révélatrice des différences socioculturelles qui opposent les deux voisins antagonistes et pourtant si proches et obligés de travailler et de collaborer. Un système en faillite. De ce côté de l'Europe, l'exemplarité des pays scandinaves est souvent brandie pour souligner nos propres manquements. Le créateur Hans Rosenfeld nous suggère, par le truchement des intrigues, de ses tueurs et de leurs motivations, que le sacro-saint miracle sociodémocrate des pays nordiques nourrit son lot d'inégalités sociales et d'immoralité. Faillite sociale, inégalité, crise migratoire, corruption. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Donc la série Bron, The Bridge, sur Arte, 4 saisons. Vous allez voir les geeks. La série est très addictive. Bel été.
Everybody's got to live.
C'est Love Is All de Roger Glover avec Dio au chant.
Ça fait du bien. Bah justement, pour garder un petit peu cet esprit festif, moi je vais vous proposer des petits jeux qui ne durent pas très longtemps, mais qui permettent d'agrémenter, de pimenter un petit peu les soirées. Donc là, par exemple, un petit jeu assez sympa qui s'appelle Zombie Life. Alors, une partie dure 15 minutes, donc c'est assez court. Hein, c'est bien, c'est un petit format. Petite boîte métallique, à l'intérieur vous avez 52 cartes, ça vous coûte un petit peu 10 euros tranquillement. Et puis voilà. Donc en une phrase, eh bien il faut accumuler le plus de zombies différents pour gagner des points sans déclencher d'émeute. T'en sers bouffé quoi en clair. Donc les zombies sont parmi nous et il va falloir faire avec. Il va falloir les accueillir chez nous ou les chasser dans la horde, les rejeter dans la horde. Soit on les accueille, soit on les rejette. Mais attention, 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 si vous faites une paire de zombies, eh bien vous êtes submergé par la horde, vous êtes mangé, vous êtes dévoré directement. Et vous perdez la manche.
Vaut mieux les accueillir.
Vaut mieux les accueillir, mais on peut pas non plus en accueillir de trop. C'est-à-dire on peut pas doubler.
C'est bizarre ce jeu.
C'est bizarre. Donc on peut les accueillir, mais pas trop.
Oh là là.
C'est assez sympa. Donc voilà, c'est grâce à la distribution des valeurs de cartes. Prenez des risques intelligemment. Attirez les zombies ou chassez-les dehors si vous risquez d'avoir des paires. Quand tout le monde a passé son tour ou a déclenché une émeute, c'est l'heure des comptes. Et donc voilà, donc c'est sympa, on rigole bien. C'est marrant, ça se met très rapidement en place. Donc
Zombie Life,
voilà Zombie Life, la maison d'édition, je suis en train de les chercher. Origam, auditeur, Origam, 9 francs,
c'est pas cher,
ouais, c'est pas cher, 9,90€.
Et c'est vrai que à Angers, il y a plusieurs magasins. On va pas forcément les citer,
mais
il y a plusieurs magasins qui vendent des jeux et c'est bien sympa.
Et c'est bien ces petits jeux comme ça qui coûtent pas très cher.
C'est l'été.
You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please.
C'est un deuxième jeu en écoutant Mongo Jerry.
Oui. Bah, tout à fait, toujours dans cet esprit, toujours sur la maison d'édition Origame. Eh bien, vous avez un petit jeu aussi qui est assez sympa, qui s'appelle Cabot s'est évaporé.
Comme
à vous de
Cabot des Gata.
Oui, tout à fait. À vous de le retrouver. Les cartes numérotées représentent la distance entre Cabot et vous. Le joueur le plus proche de Cabot à la fin de la partie l'emporte. Donc chaque joueur possède 4 cartes, face cachée devant lui, qu'il doit découvrir, remplacer ou échanger pour que leur somme soit inférieure à celle des autres joueurs, mais sans savoir ce que les autres ont. Et d'ailleurs, vous-même, vous ne connaissez que 2 cartes sur 4.
D'accord.
Donc c'est un petit peu compliqué. Donc on va pouvoir...
être bon en maths.
Il va falloir être bon en maths, et puis surtout avoir un petit peu de chance, parce qu'on va tirer au fur et à mesure des cartes, on va pouvoir espionner leurs cartes, observer leurs actions, et surtout, soyez opportunistes pour anticiper ou contrer le cabot et remporter la manche.
Comment tu écris cabot ?
C-A-B-O, comme un cabot.
Comme Cabo de Gata. Le cap, en espagnol, c'est-à-dire le cap.
Ah, d'accord, tout à fait. Donc voilà, bah ça aussi, c'est encore un petit jeu assez
bien sympatoche,
qui prend pas beaucoup de place, qui dure une vingtaine de minutes, qui, voilà, on peut débuter à 8 ans, à partir de 8 ans. 12 euros la petite boîte de jeu aussi en même temps, format boîte métallique à peu près, paquet de cigarettes.
Quoi, donc tout ça pour les vacances, c'est vraiment bien.
C'est vraiment bien. Et puis c'est
Zombie Life, et Cabot.
Voilà, Origam.
On met ça dans sa valise,
on met ça dans sa poche, et puis bah, on peut s'amuser comme ça, tranquillement.
Merci Seb.
De rien Seb.
Have a drink, have a drive. Go out and see what you can find. If the night is great.
Yo.
Yo les geeks. Alors là, je vous présente la série Black Mirror dans sa saison 6, 5 épisodes sur Netflix. Une création de Charlie Brooker. Un retour vers le futur passé. Une série en 6 saisons. Plus un film en 2018. Créé par Charlie Brooker, diffusé d'abord sur Channel 4 de 2011 à 2014, puis sur Netflix, voilà, de 2016 à 2023. C'est une série qui mélange science-fiction, thriller, horreur, drame, satire. On qualifie cette série d'anthologie, car chaque épisode est indépendant des autres, peut être regardé pour lui-même. Les épisodes sont liés par le thème commun de la mise en œuvre d'une technologie dystopique, une utopie renversée. Le titre Black Mirror fait référence aux écrans omniprésents qui nous renvoient notre reflet. Le miroir noir du titre est celui que vous voyez sur chaque mur, chaque bureau et dans chaque main. Un écran froid et brillant d'une télévision ou d'un smartphone. Sous un angle noir, et souvent satirique, la série envisage un futur proche, voire immédiat, le fameux Near Future de la SF. Elle interroge les conséquences inattendues que pourraient avoir les nouvelles technologies et comment ces dernières influent sur la nature humaine et ses utilisateurs, et inversement. D'après Charlie Brooker, chaque épisode a un casting, un décor et une réalité différente. Mais il traite de la façon dont nous vivons maintenant et de la façon dont nous pourrions vivre dans 10 minutes si nous commettions une erreur. Le titre de la série fait référence à la technologie que nous consommons comme une drogue. Si c'est une drogue alors, quels en sont les effets secondaires? C'est dans cette zone entre joie et embarras que Black Mirror se situe. Dans cette nouvelle saison, la sixième donc, le scénariste brouille les cartes. Il nous transporte dans un passé proche, mais avec des technologies du futur ou certaines actuelles. Nous ne serions plus alors dans le futur proche, near future, mais dans le passé proche, near past. Je vous lis le synopsis du premier épisode de la saison 6, Joan is awful, Joan est horrible. Joan Tate est une jeune femme travaillant comme chef d'une équipe chez Sonicals, mais rêvant d'ouvrir un café. Elle est fiancée à Krish, qu'elle aime mais qu'elle trouve trop plat, surtout en comparaison avec Mac, son ex-compagnon, avec qui elle avait une relation plus explosive, dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors qu'elle vit une journée de travail normale, John est forcé par sa direction de renvoyer une employée qui travaillait à la conception d'un algorithme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de Sonicals. L'employé est outré de la situation, mais finit par faire ses cartons. John va alors passer une journée mouvementée, pleine de doutes, mais finit par rentrer chez elle le soir, retrouver son futur mari. Ils dînent ensemble devant la télévision et cherchent une série à regarder sur Streamberry, un service de streaming empruntant l'apparence de Netflix. Alors qu'ils cherchent un programme dans le catalogue, ils tombent sur John est horrible, John is awful en VO. Intrigués par le nom de la série et l'apparence semblable à John de l'actrice Selma Hayek, qui joue le rôle principal de la série. Le couple se lance alors dans le visionnage. John est alors sous le choc. La série retrace le fil de sa journée avec une précision déconcertante. En effet, Selma Hayek et les autres personnages de la série représentent le quotidien de Joan, légèrement romancé, pour la dépeindre en personnage détestable. Krish est ainsi surpris d'entendre, à travers la série, le discours que John tient sur lui en thérapie. Il apprend aussi que sa compagne a reçu des messages de son ex-compagnon et qu'elle l'a retrouvé et embrassé. Furieux, il quitte le domicile. La série Black Mirror est dédiée à un des genres prédominants de la science-fiction contemporaine, le near future, ou anticipation proche. L'idée, c'est que la science-fiction est déjà là parmi nous, dans notre quotidien, nos engagements, nos vies concrètes. La série est donc un miroir déformant de notre réalité actuelle. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que les acteurs jouent leur propre rôle et que Netflix est parodié, voire gentiment taclé par Charlie Brooker au passage. Cet épisode fait l'hypothèse qu'en souscrivant un contrat avec une plateforme de streaming, votre image pourrait leur appartenir et devenir exploitable dans une série, une sorte de télé-réalité d'un nouveau genre qui dévoile et grossit tout ce que vous faites. Est-ce si absurde quand on sait que nos données deviennent la propriété des groupes dont nous utilisons les logiciels ou réseaux sociaux? L'hyper-commercialisation de notre société, et notamment du monde numérique, semble permettre une telle entreprise possible. C'est-à-dire qu'une entreprise privée devienne propriété.
Et on est désolé, Pablo, on est
c'est
obligé.
La fin de l'émission.
C'est la fin de l'émission, on est obligé de te couper.
On écoutera la suite à la rentrée.
À la rentrée.
Mais merci
pour ces chroniques.
Alors, c'est la fin de Band Geek Mafia, c'est la fin de la saison. Seb, merci.
Ben, merci, Seb. Alors, on va souhaiter un bel été
à tous les auditeurs
et
toutes les
auditeurs. Et auditrices, effectivement.
Restez à l'écoute de Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
Radio-G.fr. Il y a tous les podcasts.
Vous
pouvez réécouter ça tout l'été.
Et on vous dit donc à la rentrée.
À la rentrée, début septembre. Et on vous laisse avec George Michael et Elton John. Ne laissez pas le soleil me tomber dessus.
Non.
Mais c'est bizarrement traduit, ça.
Oui, non, parce que là, ça va faire mal, hein, quand même.
Allez, salut.
High and time stands still before me. Frozen heat.